On est le 23 décembre et on est dans un bar à Loche, au 10 rue Descartes, qui s'appelle le Beau Bar. Eh bien, on a l'habitude depuis quelques années de faire à l'occasion de Noël une soirée sur le thème de Noël. Donc on a appelé la soirée Swing de Noël et Pull Moche. Et on va faire du swing ce soir. Donc je suis accompagné de Charlie Jacquet à la trompette et de Gabriel Bonin au violon. Moi je serai donc à la guitare ce soir.
Voix du Sud Touraine avec Vincent Sirotte. Musicien touche-à-tout, il mène sa carrière avec exigence et enthousiasme pour créer des moments de convivialité, poétiques et musicaux. Il nous entraîne dans son histoire.
Je m'appelle Vincent Sirotte, je suis né le 12 juin 1983 à Loche et j'habite depuis quelques années un petit village qui s'appelle Genillé. Et je suis clown, musicien et je suis un passionné du spectacle vivant.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots, vous êtes donc né à Loche, me raconter tout simplement votre enfance, de quoi était-elle faite ?
Eh bien, j'ai la chance d'avoir grandi à la campagne, au sud de Loche, à une trentaine de kilomètres, un petit peu plus au sud, dans un petit village qui s'appelle Saint-Flovier, où j'ai grandi. Et j'ai eu la chance aussi de partager ces premières années de vie dans la ferme de mes grands-parents, qui était à La Salle-Guénon, un lieu dit qui s'appelle Les Poteries, où j'ai passé énormément de temps avec les animaux, etc. Et j'ai cette chance d'avoir grandi à la campagne, vraiment. On était dehors tout le temps avec les animaux, etc. Et c'était quelque chose d'assez agréable pour moi. C'est aussi pour ça que maintenant, depuis, je suis parti, mais je suis revenu. Parce que ça me fait vraiment assez plaisir d'être à la campagne.
Alors, on a fait un bond dans le temps. Vous êtes parti. Vous avez été à l'école à quel endroit ?
Alors, ma scolarité, donc en primaire, j'étais à Saint-Flovier et à Charnisay, puisque c'est le regroupement. J'ai fait mon collège à Châtillon-sur-Indre, puisque on était plus près de Châtillon-sur-Indre que Loche, donc je suis allé à Châtillon-sur-Indre. Ensuite, j'ai fait c'était un peu chaotique, alors ça me demande un peu de réflexion. J'ai fait un BEP de comptabilité. Donc à Loche, au lycée Émile de la Taille, j'ai poursuivi la comptabilité au lycée Alfred de Vigny à Loche, et puis je me suis dirigé vers un BTS d'assistant de direction à Tours, voilà. Mais j'ai jamais été ni comptable ni assistant de direction.
Et alors, du coup, après Tours, si vous n'avez été ni comptable ni assistant de direction, qu'avez-vous fait ?
Eh bien, je me suis retrouvé un petit peu comme pas mal de jeunes, je crois, à ce moment-là, à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie. C'était assez compliqué pour moi. J'avais besoin de quelque chose de concret. J'avais fait de la comptabilité et un peu de communication pendant 4 ou 5 ans. C'était bien, j'ai pris plaisir à ce moment-là, mais il me manquait quand même un peu de concret. Et mon papa avait monté son entreprise de charpente couverture depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et puis à force d'être là, à ne pas savoir un peu quoi faire, un peu à glander, à 18 ans, 19 ans, il m'a fait la proposition pour une année, pour un contrat court, de passer du temps avec lui dans l'entreprise, d'être un peu arpète, charpentier ou couvreur. Et puis, il m'a dit, tu verras, tu vas vite réaliser que quand tu auras froid l'hiver, que tu auras super chaud l'été, tu seras dehors à toutes les saisons et que tu auras subir un peu la météo, tu vas voir que tu auras vraiment envie de reprendre des études. Donc ça, c'était un peu ce que lui imaginait. Et puis en fait, le dépannage d'un an a duré 8 ans. Donc en fait, je suis devenu charpentier-couvreur dans la boîte de mon père, dans l'entreprise Sirotte, père et fils, voilà, à Saint-Flovier. fait ça de 19 ans à 26 ans, voilà, donc jusqu'en 2009, je crois. Ouais.
Et donc pendant toute cette période-là, vous viviez ici. Et ensuite, en 2009, que faites-vous ? Que devenez-vous ?
Eh bien oui, alors je travaillais avec mon père dans l'entreprise familiale et avec mon frère. Donc du coup, il a été assez simple de prendre une petite coloc entre frangins. On a franchi le cap de l'Indre. On était à Fléré-la-Rivière, donc pas très long non plus du 37. Voilà, et puis, bon, il y a eu un déclic. C'est souvent comme ça que ça s'est passé dans ma vie. Déclic et rencontre. Pour parler musique, je suis trompettiste de formation classique. J'ai fait mes études dans le sud Touraine, à l'école de musique de Verneuil-sur-Indre. Et puis, la guitare me passionnait depuis déjà quelques années. Du coup, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour prendre des cours de guitare. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup appris, qui s'appelle Yann Beaujouan. Et donc, j'ai pris des cours de guitare avec lui. Et lui m'a dit, bon, en fait, si tu as vraiment envie de faire de la musique, passe un concours dans une école pour adultes, professionnels, et puis vois ce que ça donne. Donc j'ai directement fait ça, j'ai fait cette annonce à mon papa, qui n'était pas vraiment content de me voir partir de l'entreprise où il avait ses deux fils, donc pour lui c'était quand même quelque chose d'assez important. Et puis j'ai fait, comment ça s'appelle, un CIF, un congé individuel de formation, qui a été accepté, et je suis rentré dans une école professionnelle à Tours qui s'appelle Tous en scène. Et puis en formation intensive d'un an. Et puis au bout de cette année-là, où j'ai repris mes études, et ben, du coup je me suis lancé dans la grande aventure de l'intermittence et des métiers du spectacle.
Avant que vous me racontiez cette vie d'artiste, finalement. Déjà, la trompette, depuis quand vous en aviez joué? Comment elle est arrivée dans votre vie, en tout cas la musique? Et puis, pourquoi cet instrument-là? Et puis, l'autre question, c'est pourquoi ne pas avoir pensé plus tôt, puisqu'a priori, ça avait l'air d'être votre vocation.
D'où elle vient, cette trompette? Oh, bah, elle vient de pas très loin. Hein. Mon papa jouait de la trompette. Donc, je l'ai vu partir un peu quand j'étais gosse, tous les week-ends, partir soit en répétition, soit faire des concerts avec une fanfare, qui était celle de Noing-les-Fontaines, toujours dans le 37. Et donc, bah, quand l'idée m'est venue de dire bah, « Papa, maman, moi aussi, j'aimerais vraiment beaucoup faire de la musique, pour faire comme papa », eh bien, ils m'ont dit bah, « Quel instrument tu veux faire ?»« Bah, comme papa, hein, je veux faire de la trompette ». Donc, j'ai commencé la trompette comme ça, en fait. Je sais pas, 5 ans, je dirais. C'est un peu l'âge. Il y a d'abord l'éveil musical, et puis après, oui, 5, 6 ans, un truc comme ça, le solfège, puis la trompette. Donc, trompette que j'ai continué jusqu'au diplôme de fin d'études, donc à 17 ans. Donc voilà, ça pour la première partie de question. Et ensuite, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à faire que la musique? Eh bien, parce que nous avons des parents. Voilà, et malgré tout l'amour qu'on leur porte, jusqu'à un certain âge, on les écoute et on continue de les écouter, même plus tard. Mais en tout cas, à cette époque-là, moi, 15-16 ans, quand j'avais mis l'envie d'en faire un métier, bon, on l'a tous entendu cette phrase, tu vas d'abord passer ton bac, et puis après tu auras libre choix de te diriger ou pas vers ce monde qui peut effrayer des parents.
Alors, a priori, vous leur avez, entre guillemets, donné tort. Comment ça s'est passé à la sortie de votre formation?
À la sortie de la formation, eh bien, en fait, la fin de la formation, c'est sympa. On vous donne un petit papier en vous disant, bah voilà, vous avez un certificat, vous êtes maintenant capable d'être musicien professionnel. Merci, bonsoir. Vous nous devez tant d'argent. Bon, alors, donc, on se retrouve, oui, on ouvre une porte. Et puis, on essaie de savoir un peu comment ça se passe. Donc, moi, je suis allé voir un peu ceux qui étaient mes mentors ou ceux qui étaient déjà dans le circuit depuis quelques temps pour prendre des conseils. Mais comment on fait, les copains, pour devenir musicien professionnel? Parce que moi, je faisais de la musique depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être musicien professionnel par rapport aux musiciens amateurs? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui joue mieux que l'autre? Bon, par la suite, j'ai pu voir qu'en fait, nous, il n'y a carrément aucune différence sur le jeu. Je connais des amateurs qui sont bien meilleurs que moi. Mais du coup, c'est tout un cursus. Il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc, la première des choses, c'était de s'inscrire au Pôle emploi. Voilà, ça paraît bizarre comme protocole. C'est-à-dire, pour devenir musicien professionnel, il faut s'inscrire au Pôle emploi parce qu'on dépend d'un annexe 8 et 10, qui sont des statuts un peu spéciaux, qui sont pour les intermittents du spectacle, dont je fais partie depuis un petit peu plus de 10 ans. Donc la première démarche, ça a été de m'inscrire au Pôle emploi et de leur dire, bah, en fait, oui, je recherche du travail en tant que musicien. Et puis bah, après, j'ai commencé à appeler des copains avec qui j'avais des affinités en leur disant, bah, les copains, est-ce que ça vous dirait de monter un groupe avec moi? Et puis, bah, y en a eu un premier, puis il y en a eu un deuxième. Et puis est venu le moment où je me suis aperçu que j'avais quelques facilités avec les programmateurs pour nous vendre. Et donc j'ai monté un label local en 2011, ici à Loche.
Est-ce que vous pouvez me dire quels souvenirs vous gardez de ces premiers temps? Alors vous me disiez que vous étiez avec les programmateurs, ça se passait bien. Pourquoi ça se passait bien? Et est-ce que ça a toujours roulé comme ça avec toujours des choses à faire? Ou est-ce que quand même il y a eu des moments un peu de doute ou de... où vous vous êtes dit « mais qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je vais y arriver ?»
Une de mes chances, peut-être, c'est que j'étais à Tours, donc quand j'ai fait la formation à Tours, les copains que j'avais à Tours et que j'ai rencontrés durant cette année de formation m'ont tous dit à la fin « Vincent, s'il te plaît, reste à Tours avec nous, on va monter des groupes sur Tours, on va faire des choses grandioses, ça va être exceptionnel, ça va fonctionner, etc. Bon, » la vie en ville, même si Tours, ça reste une... petite ville, moi je m'y retrouvais pas et j'avais des affinités avec ici, la campagne et aussi avec un réseau qui était déjà le réseau des gens que moi je connaissais depuis que j'avais commencé la musique parce que j'ai commencé la musique à Verneuil très jeune mais j'ai vite joué dans les fanfares de village, donc à Saint-Flovier, fanfare où moi j'habitais, à Verneuil-sur-Inde où je faisais de la musique et à Nohant-les-Fontaines parce que papa, mes parents allaient régulièrement à Nohant-les-Fontaines. Donc en fait j'ai drainé rapidement... un petit réseau de gens que je connaissais et le jour où j'ai voulu en faire mon métier, ben, j'ai pris contact avec les comités des fêtes, des petits villages où moi j'allais jouer alors à la fête du cochon grillé, à la foire au luma, etc. et toutes les fêtes de villages bien populaires et qui me correspondent à fond. Et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ces gens-là qui m'ont fait confiance alors que je commençais tout juste avec des gens que eux connaissaient pas, Gabriel et Félix. On avait pas ou peu d'enregistrements, on n'avait pas de vidéos parce qu'il y a 15 ans, je vais parler comme un vieux un petit peu, il y a 15 ans, on n'avait pas, on avait, est-ce qu'il y avait Facebook il y a 15 ans?
Je pense pas.
Ben voilà, donc il n'y avait pas Facebook. Ah non, on avait MySpace qui était une sorte de petit site internet où on pouvait mettre de la musique. Donc en fait, on avait juste ça pour développer, mais sauf que tous les gens n'allaient pas sur MySpace. Donc c'était un peu compliqué. Donc les gens m'ont fait confiance, j'ai réussi comme ça à avoir quelques heures, mais la question c'était est-ce que ça s'est bien passé? Non, la première année j'ai pas réussi à avoir mes heures, donc pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est 507 heures de concert en une année pour obtenir le statut d'intermittent du spectacle. La première année j'ai pas réussi à faire mes heures, donc c'est le RSA qui gracieusement m'a permis de manger des pâtes pendant encore 12 mois.
Et il n'y a pas de moment où vous vous êtes découragé?
Non, vraiment non, parce que j'étais à l'époque charpentier depuis 8 ans et je crois que j'avais un sens du travail et une méthodologie qui fait que j'ai travaillé dur pendant ces 10 années-là, 8-9 années. Je me suis dit, bon, vraiment, si je veux faire de la musique, faut y aller. J'étais assez persuadé que ça pouvait pas arriver du jour au lendemain. On ne vient pas intermittent, même en ayant extrêmement de talent, ou alors ça dure pas longtemps, mais c'est dur d'être intermittent rapidement. Je crois que c'est vraiment un processus un peu long, en tout cas au démarrage. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça.
Bonsoir à tous. Comment ça va? C'est nous.
Et qu'est-ce qui, peut-être toujours aujourd'hui, où ça a peut-être évolué, mais à l'époque, en tout cas, vous faisait vibrer qu'est-ce qui vous animait, au-delà du fait de jouer de la musique? En tout cas, si c'était ça, évidemment, pourquoi?
Oh, mais moi, c'est d'être avec les gens. Hein. Je crois que vraiment, Ouais, c'est vraiment, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Je crois que c'est vraiment ça le premier des... Alors moi, je me fais plaisir forcément quand je fais de la musique, mais je le fais pour les gens. Et aussi, je crois, parce que grâce à mes parents, moi, on n'écoutait pas beaucoup de musique à la maison. Par contre, mes parents allaient beaucoup au bal populaire. Donc j'ai usé mes pantalons sur les genoux dans pas mal de parquets du sud Touraine. Et en fait, quand je voyais la ferveur et quand je voyais tous ces gens qui étaient vraiment super contents d'être ensemble juste en dansant toute une soirée, bon, moi, rapidement, je me suis dit « Ouais, je crois que c'est un peu ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire danser les gens. » Alors même si je ne me suis pas tout de suite dirigé vers la musique à danser, plutôt le swing, moi qui faisais le swing manouche, le jazz manouche, qui me faisait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Même si j'y suis pas allé tout de suite vers la danse, bah j'y suis allé pas très longtemps après.
Et alors, donc, ça c'était le style musical avec ces deux musiciens, c'était
le jazz manouche, ouais, le swing, ouais. C'était les grandes années de San Severino à cette époque-là. Bon, moi j'étais déjà fan de Django Reinhardt, qui est le maître incontesté du jazz manouche. Et puis San Severino a ramené un peu sa patte un peu moderne avec les textes, etc. Et moi j'écoutais ça, mais tout le temps. Gabriel jouait avec les Voleurs de Swing, qui est un groupe à Tours qui a aussi beaucoup tourné. Et puis nous, quand on s'est rencontrés. On se voyait de temps en temps à Tours quand j'étais en formation les mercredis après-midi pour bosser la guitare. Lui est violoniste et il joue aussi beaucoup de flûte à bec et de la vielle maintenant. Mais lui commençait à bosser la guitare et puis moi je travaillais aussi. Donc on se voyait les mercredis après-midi pour travailler le répertoire de Django Reinhardt. Donc quand il a été question de faire un groupe ensemble, on s'est pas trop posé la question du style. Ça a été le jazz manouche.
Et vous composez également ?
Ah là là, j'ai pas cette fibre. Alors, j'ai composé un peu pour d'autres groupes, mais non, j'ai pas un... Moi, je suis un guitariste accompagnateur. Donc, comme son nom l'indique, j'accompagne les autres. Je compose pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est par fainéantise ou est-ce que c'est par manque de créativité? Peut-être un peu les deux. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour créer, en tout cas de jolies choses. Et je crois que je suis tellement pointilleux que tout ce que je commence à écrire, je le mets rapidement à la poubelle parce que je trouve ça toujours très nul.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter la naissance de votre label et expliquer aussi en quoi ça consiste ?
Eh bien, donc on est en 2011 et là, les dates commencent un peu à arriver. C'est-à-dire on me fait confiance, on nous fait confiance, mais je dis me parce que c'est moi qui suis souvent au téléphone avec les programmateurs. Le groupe commence à se faire connaître dans la région du sud Touraine, etc. Donc je me dis, bon, ben, comment faire pour monter d'un cran en termes de professionnalisme? Et puis là, en cherchant un peu, je me dis, eh ben, tiens, il y a plein de gens qui montent des structures, pourquoi pas moi? Donc là, je me suis entouré un peu d'un bureau et puis d'un conseil d'administration et on a créé une association qui s'appelle Versus V-Prod et on a décidé que ce serait un peu notre écurie, notre enseigne, la marque de fabrique du Sud Touraine. Et donc, on l'appelle label, mais en vérité, c'est plus ce qu'on appelle un roster. Un roster, c'est un catalogue d'artistes. Et à l'époque, il y avait donc les Fingers. Le trio, c'était avec les deux compères, c'était le trio qu'on avait, le trio Swing. Et puis il y a une autre rencontre qui a été assez importante pour moi, c'est la rencontre avec le groupe qui s'appelle Le Bal des Champs, qui est un groupe qui fait danser les gens. Et donc ça, c'est par le biais de mon frère qui, un jour, lors d'une brocante à Clion-sur-Indre, a rencontré un copain d'école qui s'appelle Romain Lévesque et qui était le batteur du Bal des Champs. Et puis en discutant ensemble, Romain lui dit, bah écoute, on a notre bassiste. Pierre Cossé qui part faire un tour du monde et du coup le groupe a un peu de date mais du coup on n'a plus de bassiste et donc mon frère rentre de cette brocante et me dit mais Vincent tu sais que là il y a un groupe à Clion, ils ont pas de bassiste. Alors je dis bah oui, moi j'avais bossé un peu la basse et je me suis dit allez bingo, j'achète une basse, un ampli basse et je réponds à leur annonce. Et voilà, bim, je les ai rencontrés, ça s'est bien passé, on a bu pas mal d'apéros et on s'est vraiment beaucoup appréciés. Et puis c'était le début de l'aventure avec le Bal des Champs.
Depuis, il y a des choses nouvelles ?
Alors il y a des choses nouvelles et il y a des choses qui se sont arrêtées. Le Bal des Champs, c'est un groupe qui a tourné un peu plus de 10 ans avec deux albums. Et puis c'est comme tout, des fois les choses... voilà, s'essouffle un peu. Et puis, puis on passe à autre chose. On n'a clairement pas réussi à se dire tous les cinq autour d'une table, bon, on arrête les copains. Bon, impossible à le dire, donc personne n'a réussi à verbaliser ça. Mais on savait qu'on allait prendre un peu de distance. Donc le Bal des Champs ne joue plus vraiment. Il y a eu aussi de passage Racine, qui était un groupe avec Océane Alper, Blaise Jamin, Romain Lévesque aussi, et moi-même, donc à la guitare. Pareil, qui a duré 3-4 ans, et puis qui s'est arrêté. Parce que, bah, pareil, les programmateurs n'arrivaient pas à... fallait rentrer dans une case. Bon, c'est aussi un peu ça le souci de la musique, c'est que si on ne rentre pas dans des cases, malheureusement, quand on n'a pas de visibilité, eh bien, les programmateurs ne font pas confiance. Donc Racine, c'est pareil, ça a été un joli projet, on y a mis vraiment beaucoup d'énergie et de cœur pendant 4 ans, 5 ans, et puis du coup, ça a arrêté. On a eu aussi le CTRL-Z Experience, qui était un ciné-concert. Je suis passionné de vidéo aussi, moi j'ai fait une formation de monteur vidéo à Grenoble, donc j'adorais aussi ce principe. D'ailleurs, j'encourage tous les gens qui vont écouter ce podcast à aller sur YouTube, taper CTRL-Z Experience et vous verrez, le concept est assez chouette. Et puis, il y a d'autres collectifs qui se sont mis en place, notamment celui de La Grand Bête, qui est un groupe de trad, musique trad à danser. Et je tiens à préciser, musique trad Centre France, avec que des choses qui ont été composées par nous, musiciens, ou repris du répertoire Centre France traditionnel ici chez nous. Là.
C'est quoi ça, la musique traditionnelle Centre France ?
Le trad, c'est... Alors, je donne des exemples de danse. Hein. C'est de la danse, c'est des mazurkas, il y a des polkas, il y a des bourrées, il y a quoi d'autre ? Il y a des scottish, il y a des cercles. Voilà, tout ça, c'est des danses qu'on peut retrouver dans les bals trad et bals folk.
C'est une réadaptation moderne ou c'est vraiment comme on l'entendait il y a longtemps dans les campagnes, pour caricaturer un peu, excusez-moi.
Très bonne question. Alors, par exemple, le bal des champs, nous, on avait décidé à l'époque, sur un même répertoire, hein, qui était un répertoire Centre France, on avait décidé de jouer avec une batterie, avec une basse électrique, une guitare électrique, avec un violon. Qui n'était pas électrique, lui, et un accordéon diatonique qui est aussi un des instruments qu'on retrouve dans la musique trad. C'était une volonté de moderniser un peu, de mettre un peu de rock'n'roll dans des choses qui étaient parfois que nous, on trouvait un peu comment dire, arriérées. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas un peu lointaines dans nos oreilles. Ça nous faisait un peu bizarre de jouer ce répertoire comme il était. Et puis, bah, en fait, comme quoi, au fil des années, on change un peu d'idées. Là, le avec La Grand Bête, eh ben, on a envie plutôt de revenir à quelque chose de un peu plus épuré et un peu plus proche de ce qu'a pu être la tradition il y a 50, 60, 100 ans, quoi. Donc là, nous, on essaye de vraiment se consacrer à la musique, mais au service de la danse. Donc on essaye d'être au plus proche de ce que les anciens ont pu nous donner.
Et du coup, aujourd'hui, comment vous occupez votre emploi du temps ?
Bah, les choses ont bien changé en 10 ans, au fil des rencontres. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus clown que musicien. J'ai découvert le clown grâce à un copain à moi qui s'appelle Julien Gerbier, avec qui je joue aujourd'hui dans un spectacle qui s'appelle « Deux comme un accord ». On fait partie de la même compagnie qui s'appelle « La petite fabrique de cirque ». Et ben ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Enfin, la création du spectacle nous a pris, alors si on enlève l'année 2020 qui a été une année un peu spéciale, la création du spectacle nous a pris 4 ans à hauteur de 12 ou 13 résidences, donc 12 semaines de résidence de travail avec un autre personne qui a été assez importante dans ma découverte du clown, quelqu'un qui s'appelle Jérémy Olivier, qui est le metteur en scène de ce spectacle, qui nous a un peu pris par la main et nous a fait découvrir le clown. Et moi, je suis tombé littéralement amoureux, fou, passionnément de cette pratique qui est le clown, qui est vraiment extraordinaire. Et là, pour donner un ordre d'idée sur mon emploi du temps, je suis à trois quarts de clown et un quart de musique actuellement.
Pourquoi vous êtes tombé amoureux du clown ?
Pourquoi je suis tombé amoureux du clown ? Eh ben parce que, en fait, on triche pas vraiment avec le clown. C'est-à-dire que on vit un moment dans le présent. c'est quelque chose qui se passe et c'est un peu hors du temps. C'est-à-dire qu'on passe le rideau noir et une fois qu'on arrive devant les gens, et bah, ce qui va se passer, c'est là tout de suite, avec ce que l'on est et avec aussi ce que les gens sont en face. C'est-à-dire que voilà, peut-être j'ai eu une matinée pourrie et que j'ai crevé une roue de voiture, mais n'empêche qu'à 17h ou à 18h ou à 20h, au moment où j'entre en scène, et bah, je laisse tout ça de côté et je suis là, juste dans le présent, avec, avec mon camarade de jeu sur la piste. Et je suis face à des gens qui, peut-être eux aussi, ont des galères ou ont des vies merdiques, je sais pas, ou même qui sont parfois même super heureux, etc. Et on fait ça, on crée ensemble le spectacle. Donc en effet, il y a une écriture, hein, on a passé 12 semaines, comme je disais, à écrire le spectacle, mais chaque représentation est unique. Parce qu'on a un public différent à chaque fois. Nous, on est là, différents, avec nos états d'âme, etc., et nos sentiments différents, et avec un public différent. Et on dit qu'on incarne le clown, quoi. Donc, ça ne vient pas de nulle part, Jean Béguet. Incarné, quoi. Incarné dans la chair. C'est vraiment quelque chose de loin et fort. Donc, c'est aussi pour ça que ça prend des dimensions absolument folles, le clown.
Quelles sont les salles qui vous accueillent ?
Eh bien, on joue partout. On joue partout en France. On a la chance, malgré des temps un peu incertains, notamment l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir jouer partout. On a joué sur des festivals, festivals connus, assez reconnus dans le milieu des arts du cirque. Et puis, on joue aussi en salle parce qu'on a eu le temps de réfléchir, développer des choses pendant ces périodes de confinement. Donc, on a fait une création lumière à Loche, à la salle d'Agnès Sorel, pendant le deuxième confinement. Oui, il y en a eu deux, hein, c'est ça. Oui, deuxième confinement, on ne sait plus à force. Il y en a eu trois, quatre, on ne sait plus. Et donc pendant le deuxième confinement, on a fait une création lumière à Agnès Sorel pour justement pouvoir permettre au festival, ou plutôt saison culturelle, de pouvoir nous accueillir en salle et pas uniquement dans la rue. Parce que nous, en fait, notre terrain de jeu qu'on aime vraiment beaucoup, c'est la rue, les arts de la rue.
Du coup, si on fait un résumé de la période actuelle, donc vous m'avez dit trois quarts, un quart. Mais du coup, comment ça s'organise et quelle est votre vie, en fait ?
Ma vie est celle d'un hyperactif, hein, je peux pas le nier. Là, je vous parle que de la partie artistique. Donc, artistiquement, sur scène, je suis trois quarts clown, un quart musicien. Et ça s'articule assez facilement puisque depuis quelques années, j'ai pris, moi, Vincent, la décision de faire moins de musique pour laisser la place au clown. Donc après, moi, ça a été un choix personnel, mais par envie. Et à côté de ça, je travaille aussi pour d'autres compagnies en tant que chargé de diffusion. Donc, je suis aussi chargé de diffusion pour un autre spectacle d'une autre compagnie qui s'appelle la compagnie Toi d'abord, un spectacle de solo de cascade à mini-moto de Jérémy Olivier, un spectacle qui s'appelle La peur au ventre. Je suis aussi chargé de diffusion pour le label, toujours. Je multiplie un peu les activités. Je suis constructeur de décors de spectacles et de gradins. On a monté pendant le confinement avec Jérémy justement parce qu'on s'ennuyait beaucoup. On a monté cette petite structure de fabrication de gradins. Donc voilà, ça s'articule assez facilement. J'ai un rythme de travail qui est assez élevé, qui ne correspond pas tout le temps aux gens. Donc j'ai un peu, depuis quelques années, arrêté d'être en colère après tous les gens qui me disaient de ralentir, parce que plus on me dit de ralentir et plus j'accélère. Ça va souvent vite pour les autres, mais en fait, en vrai, c'est mon rythme à moi. Donc j'accepte assez facilement de beaucoup travailler.
C'était Voix du Sud Touraine avec Vincent Sirotte, un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.